magazine d'actualité. Pierre-Edouard Deltic.
Bonjour, c'est une nouvelle édition spéciale de votre magazine que nous allons vous proposer cette semaine. Édition spéciale consacrée aux marches historiques. Ici, le mot n'est pas vain. Dimanche dernier à Paris et dans toute la France, quelques 4 millions de personnes et un slogan « Je suis Charlie ». Une semaine aussi d'hommage aux 17 victimes des attentats terroristes dans la capitale française. Nous allons en reparler bien sûr dans cette émission qui revient sur 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction. Nous partirons pour l'Afrique après le flash. Je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver cette émission sur le site de la radio www.rfi.fr. Nous sommes en compagnie ce matin de Claude Angéli, de l'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné. Bonjour Claude.
Bonjour.
Quel est votre état d'esprit aujourd'hui ?
Triste. Je suis désolé, mais c'est triste.
Ouais. On peut être au Canard Enchaîné et être triste.
Eh oui, parce que d'abord, les 17 qui sont morts, pas seulement des dessinateurs, mais correcteurs, policiers, et puis Cabu. Cabu qui travaille chez nous depuis plus de 30 ans.
Qui fait la une du Canard cette semaine, d'ailleurs.
Et que je connaissais depuis un demi-siècle. Alors ça fait un peu dur. Il allait avoir 77 ans, juste avant de mourir. Et c'était un type absolument étonnant. Mais je ne veux pas en faire des tonnes parce que c'est gênant.
Parce que c'était un talent à l'état pur, une générosité à l'état
pur.
Oui,
en plus, c'est merveilleux des types.
Ouais, et il a tenu, enfin il était présent chaque semaine dans le Canard.
Oui, il était plus que présent. Et puis le mardi, à l'atelier de composition, quand on lui a dit au revoir, c'est quelques heures après, vraiment. Quand on est retourné mardi à l'atelier de composition, sa place... Personne ne s'est assis à sa place. Alors on a continué à travailler, parfois à rire, à téléphoner, mais personne ne s'est assis à sa place.
Alors il est à la une donc du Canard cette semaine, le dessin de son visage, cabu par lui-même, et la reproduction de son personnage fétiche, le beauf.
Oui, qui est entré dans le dictionnaire.
Oui, grâce à lui.
Le beauf, oui. Maintenant on parle de beauf, même les gens qui ne lisaient pas Charlie parlent du beauf.
Oui.
Ou la beaufitude.
Ouais. Et vous soulignez dans l'éditorial, enfin Michel Gaillard souligne à une du Canard le cousinage qu'il y avait entre le Canard et Charlie Hebdo. Hein.
Oui,
sauf qu'il y en a un qui est centenaire, le Canard, et Charlie Hebdo qui est le petit jeune.
Et puis Charlie où il y a eu plusieurs générations, quoi, parce que là c'était un peu une nouvelle génération qui était à la tête de Charlie.
Alors Claude, remontons le temps, dimanche 11 janvier 2015, la date restera certainement. Des millions de Français participent à des marches en l'honneur des victimes du massacre contre Charlie Hebdo et de celle du magasin Hyper Cacher. Près de 2 millions de personnes, rien qu'à Paris. Reportage de Laurence Théo.
Ils sont des milliers, des hommes, des femmes, des enfants, des gens de toutes les couleurs, de toutes les confessions. Dans la vague mouvante, des unes de Charlie Hebdo, levées au-dessus des têtes, comme un pied de nez à l'intolérance. Et puis, tous ces cris, sur format A4, c'est « Je suis Charlie », sorti des entrailles des photocopieuses, et du fond des cœurs, Laurent est ému, il a du chagrin.
Énormément. J'ai encore très... C'est des amis. J'ai pas dormi depuis deux nuits. Voilà.
Partout, des crayons, des stylos, armes des démocrates sont pointés vers le ciel. Participer à la marche, c'est défendre la liberté d'expression. Mohamed est algérien.
Mais la liberté, ça se tue pas.
Moussa est malien.
On est solidaire avec tout le monde qui défend la liberté. C'est une valeur sacrée.
John est américain.
Ce qui est arrivé, vous pouvez voir déclencher le plus grand manifestation pour soutenir la liberté d'expression qui ait jamais existé dans ce monde.
Lucas a 7 ans.
En France, on a le droit de s'exprimer. Dans d'autres pays, on n'a pas le droit.
Juliette a noué des crayons dans ses cheveux. Pour elle, il faut absolument éviter les amalgames.
J'ai jamais fait d'amalgame parce que j'ai déjà beaucoup d'amis musulmans à l'origine. Personnellement, moi j'ai une autre religion. Pourtant, on s'entend très bien. Du coup, je trouve ça très très important et c'est ce genre de voix qu'il faut entendre bien plus que certains. certaines autres.
Cheveux gris en broussaille, Saïd s'énerve.
Il n'y a pas de contraste entre les cultures religieuses. Il y a le contraste entre des personnes qui sont vides à l'intérieur, qui s'expriment dans cette manière. Donc l'État français, tous les États européens, ils doivent prendre en considération que le futur, c'est de travailler sur les enfants.
Et puis partout, dans les réactions glanées au fil des heures, affleure l'idée d'un avant et d'un après. Sourcil épais, nez volontaire, Serge s'adresse aux victimes.
Ça arrache un peu la bouche de le dire, mais enfin, ils ont rendu service au pays. C'est une nation émiettée. Et je pense que là, tout d'un coup, on s'est tous dit qu'on appartenait à une nation, un peuple. C'est extraordinaire.
Parmi les 17 victimes des attentats, il y avait les dessinateurs de Charlie Hebdo. Alors qu'ils aient une certitude, aucune feuille à dessin, même la plus gigantesque, n'aurait pu contenir ces centaines de milliers d'hommes et de femmes rassemblés par le chagrin, la colère et la fraternité.
Charlie !
Alors, Claude Angélie, des millions de personnes dans les rues de Paris, de toute la France, même des plus petites villes de France. Vous qui avez le recul nécessaire, bon, vous n'avez jamais vu ça non plus.
Non, j'ai jamais vu ça. Même dans d'autres manifestations fantastiques qu'on a vues à la télévision où on a été présent, ouais. Au Caire ou à Téhéran où j'étais, jamais vu ça. Mais je vais pas revenir sur le côté fantastique de cette réussite. Faire deux remarques. Premièrement, la récupération politique. C'est un fait que cette manifestation aurait été appelée par la Ligue des droits de l'homme ou par les organisations de journalistes, il y aurait eu autant de monde. Mais le gouvernement a voulu prendre ça en main. Bon, l'habitude des politiques d'essayer de bénéficier d'une mobilisation qui a existé dès le soir même de l'attentat.
Des rassemblements dès le soir même, vous avez raison Claude.
À la République. Ouais. Et deuxième remarque, un petit peu désagréable, c'est pourquoi ces chefs d'État.
Alors, il faut préciser, je venais à cela, Claude Angélie, il y a eu une cinquantaine de représentants de pays étrangers, dont une partie n'était fort peu démocratique.
Hein. Chefs d'État et chefs de gouvernement. Et certains, alors qu'il y a vraiment, qu'ils aient osé être là, et qu'on ait osé les inviter, parce que là, il y a une responsabilité du gouvernement, quand même. Par exemple, le numéro 2 des affaires étrangères, du ministère des affaires étrangères saoudien, un représentant du Qatar, c'est-à-dire le frère de l'émir Al-Thani, écoutez, le canard est bien placé pour dire que, avant tout le monde, on a parlé du financement des djihadistes, du financement des salafistes, financement des frères musulmans.
D'ailleurs, Claude.
Et donc, on a fait, non pas parce qu'on est les meilleurs, mais simplement parce que on a réussi, comme canard enchaîné, à obtenir des informations qui nous venaient des services ou des militaires qui informaient l'Élysée, qui continue d'ailleurs à avoir de très bonnes relations avec le Qatar et avec l'Arabie Saoudite, y compris à droite et à gauche, ils ont tous la même responsabilité de ne pas rompre avec de tels gouvernements, ou de tels émirs, ou de telles familles royales à qui on espère vendre du matériel militaire. Donc, ces gens, on a été obligés de défiler derrière eux. Et ça, ça n'est pas convenable.
Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, Claude Angélie, que le blogueur et militant libéral saoudien Raif Badawi, qui devait être fouetté hier, comme il le sera plusieurs vendredis de suite, car il a été condamné à 1000 coups de fouet, à 1 million de riyals d'amende, à peu près 300 000 dollars.
Hein, 1000 coups de fouet, il mourra.
Et donc, il n'a pas eu droit à ces coups de fouet hier pour des raisons de santé, l'Arabie saoudite.
Mais il mourra.
En Arabie saoudite.
Si on les lui donne, il mourra. Parce que 50 par semaine, c'est beaucoup.
Ouais.
Même un.
Ouais. Alors il y avait d'évidence, Claude, pour en venir à ces manifestations françaises stricto sensu, beaucoup de choses derrière ce slogan « Je suis Charlie hein. ». Vous avez entendu démocratie, liberté de presse, caricature, patrie.
C'est un peu confus. C'est la générosité, c'est l'émotion, c'est normal.
La spontanéité à l'état pur.
Ensuite, il faut voir, est-ce qu'il va y avoir un durcissement des lois sécuritaires, du contrôle, d'une restriction des libertés, comme certains le demandent, bon ben là, il faut quand même que, en tant que journaliste, et pas que nous, tout le monde soit vigilant, parce que, comme aux États-Unis, après le 11 septembre, il y a eu le Patriot Act, et on sait très bien que ce n'est pas cela qui permet d'éviter les attentats. Le tout est la surveillance, le renseignement, et le contrôle des services de sécurité et de police.
Patriot Act, Claude, qui permet aujourd'hui au gouvernement américain d'espionner tout le monde. Hein,
oui, de faire n'importe quoi, parce que ça, il n'y a pas de contrôle réel et les services de renseignement américains ou de police peuvent tout faire, y compris dans une entreprise privée, demander le comportement de tel et demander à voir les comptes bancaires de X ou Y et écouter n'importe qui, comme Snowden l'a bien révélé avec les affaires de la NSA, la surveillance de Madame Merkel comme des citoyens américains. Voilà.
Ouais. Alors, à propos des Américains, John Kerry s'est excusé hier, vendredi, de l'absence d'un représentant américain dimanche. Vous en pensez quoi? C'est anecdotique ou
Non, Obama a reconnu qu'ils avaient eu tort de ne pas envoyer un élément représentatif. Mais ça, c'est un problème diplomatique. Kerry a fait un discours très, très valable.
Et Obama est allé la semaine dernière à l'ambassade de France à Washington pour signer un livre, il faut le rappeler. On va continuer à retracer en quelques images sonores cette semaine, Claude Angeli, avec trois images fortes, mardi singulièrement. Celle d'abord de l'hommage national aux policiers tués lors de ces attaques terroristes, Guillaume Deltaï.
Les honneurs sont rendus alors que les trois cercueils entrent dans la cour de la préfecture de police. Trois cercueils recouverts du drapeau français et portés par des hommes et des femmes appartenant aux unités des policiers tués. La Marseillaise, l'hymne national a ensuite retenti. Puis le président de la République a passé en revue les troupes, 10 minutes de silence total. Et c'est aussi en silence que François Hollande s'est recueilli devant les cercueils sur lesquels il venait d'accrocher la décoration de la Légion d'honneur. Le chef de l'État qui a ensuite pris la parole pour rendre hommage au sacrifice de ces trois policiers et à l'engagement des forces de l'ordre en général.
Notre grande et belle France ne cède jamais, ne rompt jamais, ne plie jamais. Elle fait face. Elle est debout. Force est donc restée à la loi, grâce aux forces de l'ordre.
Les cercueils ont ensuite quitté cette cour d'honneur remplie de policiers et d'officiels, visiblement très émus. Et c'est désormais dans l'intimité familiale que les obsèques sont célébrées.
Enterrement aussi, cette fois en Israël, des victimes de magasins hyper cachers, toujours à Paris bien sûr. Correspondance de Jérusalem, signée Muriel Paradon.
C'est la fin d'une cérémonie émouvante au cimetière de Givat Shaul à Jérusalem. On enterrait les 4 victimes juives de l'attaque contre l'hypercacher à Paris. Naji Soufan était dans l'assistance. Ce Français vivant en Israël a été touché par la douleur des familles de victimes, notamment celle de Yoav Atab, qu'il connaît bien.
Je connais son grand-père, sa mère, ses frères, son moindre, tous. Ce qu'on demande, que Dieu repose son âme et que nos condoléances à toute sa famille, du petit au grand, et que Dieu leur donne le courage. Voilà ce qu'on peut dire, madame.
À l'issue de l'enterrement, un cousin de Philippe Braham, une des 4 victimes, ne peut s'empêcher d'exprimer sa colère.
Le fond de ma pensée, c'est que cette cérémonie n'aurait jamais dû exister. Parce que si la France était moins laxiste, ce ne serait pas arrivé. Donc, faut espérer que le gouvernement français réagisse et continue sur ce qu'ils ont annoncé, sur ce qu'ils veulent faire. On n'en est vraiment pas sûr, quoi.
Ségolène Royal, qui représentait la France à ses funérailles, a promis que le gouvernement ferait tout pour lutter contre l'antisémitisme. Mais les Juifs de France doutent, ils attendent des actes concrets. Dans le cas contraire, certains pourraient choisir l'exil en Israël.
Une semaine d'actualité.
Mes chers collègues, je vous invite à présent à la mémoire des 17 victimes de la barbarie à observer une minute de silence.
Alors nous venons d'entendre Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, qui nous permet de parler de la troisième image de cette journée de mardi. Manuel Valls, le Premier ministre, à la tribune de l'Assemblée, face à des députés debout, unis derrière le gouvernement et chantant la Marseillaise. Écoutons un extrait des propos du Premier ministre.
Le temps de l'émotion et du recueillement, il n'est pas fini. Vient le temps de la lucidité et de l'action. Sommes-nous en guerre? La question a en réalité peu d'importance, car les terroristes djihadistes, en nous frappant 3 jours consécutifs, y ont apporté une nouvelle fois la plus cruelle des réponses. Il faut toujours dire les choses clairement. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. La France n'est pas en guerre contre une religion. La France n'est pas en guerre contre l'islam et les musulmans. La France protégera, et le président de la République l'a également rappelé ce matin, la France protégera, comme elle l'a toujours fait, tous ses concitoyens.
De gloire est arrivé contre nous de la tyrannie et par la sanglante élevée.
Alors ça, ce sont les députés qui chantent la Marseillaise à l'initiative de Serge Grouard, le député-maire d'Orléans. C'est, là aussi, c'est sans équivalent. On dit que jamais ça s'était produit depuis 1918.
Depuis 1918, ouais. Oui. Bon, c'est une réaction normale. Ouais. Il n'y a pas... commenter. Ouais. C'est normal. Je veux dire, marquer le coup, mais sans plus. Hein, parce que je vous ai dit ce que je pensais un peu de la récupération politique. Et je crois que Valls en fait beaucoup et qu'il compte démontrer ainsi qu'il est prêt à agir. Voilà. Mais en fait, compte, c'est pas simplement le gouvernement qui est en cause. Dans toutes les opérations de guerre que nous menons, on contribue, disons, à devenir une cible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, encore qu'on puisse en discuter, par rapport à l'Irak. Comme Dominique de Villepin dit, devons-nous ajouter une guerre à la guerre? Bon, moi je le pense aussi, qu'il fallait sans doute que ce soit les pays arabes qui, s'ils ont quelque chose à reprocher à l'État islamique, qui montent une barrière et une armée contre
ça. Ils sont assez entrés dans cette coalition.
Comme en Afrique, on ne peut pas tout régler en Afrique. Oui. On ne peut pas tout régler en Afrique, dans le Sahel comme ailleurs, comme au Nigeria, par exemple.
Oui. On va reparler dans la deuxième partie d'un sujet que vous connaissez bien, le renseignement et la menace islamiste dans le monde entier. Mercredi, le numéro de Charlie Hebdo d'après massacre est paru, des millions d'exemplaires à la une, le prophète qui tient une pancarte « Je suis Charlie » et ce titre « Tout est pardonné », des millions d'exemplaires et des files d'attente au kiosque. Là aussi, j'imagine que c'est pour vous, le journaliste, une image forte, enfin une situation sans équivalent.
Non, on n'a jamais vu ça. En plus, des tas de gens qui savent même pas ce qu'est Charlie, oui. Qui disent « je suis Charlie ».
Mais ce qui fait qu'il y a des vrais lecteurs de Charlie Hebdo qui achètent tous les mercredis leur journal, comme on peut le faire pour le Canard enchaîné, comme on le fait d'ailleurs pour le Canard enchaîné, ne l'ont pas trouvé cette semaine.
Non, mais ça va continuer à être vendu chaque jour, puisqu'ils vont tirer à, je crois, 3, 4 ou 5 millions.
Ouais. Alors Claude, une question sensible, il y en a beaucoup à se poser sur cette notion de caricature du prophète. Est-ce que le Canard enchaîné suit la même ligne que Charlie Hebdo là-dessus?
Chacun fait ce qu'il veut. Il faut que chacun puisse faire ce qu'il veut. Y compris le prophète, tel qu'ils l'ont dessiné, il y avait une larme.
Oui.
Et tout est pardonné peut être compris dans les deux sens. C'est-à-dire, moi prophète, je vous pardonne, ou vous, on vous pardonne parce qu'il y a des gens qui n'ont rien compris à la religion et qui se mettent à penser que la religion, ça se fait à la Kalachnikov. Voilà.
Ouais. Alors, le Michel Gaillard, le patron du Canard, dit, signe son éditorial, c'est rare, hein, qu'il écrive quelque chose. L'heure est tragique, rions. Et le titre du Canard cette semaine, c'est le message de Cabu, entre guillemets, allez les gars, ne vous laissez pas abattre.
Oui. C'est un très bon. On l'a inventé, mais c'est très bon.
Ça aurait pu être ça, hein.
Ça aurait pu être ça.
Claude Angeli, on va marquer une pause pour écouter les nouvelles de ces dernières heures et on se retrouve dans 3 minutes pour continuer à vivre cette semaine extraordinaire dans tous les sens du terme. A tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour notre revue de 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Et un numéro spécial qui revient sur une période qui ne l'est pas moins en France. La peine, la colère et l'union d'un pays après les massacres de la semaine dernière. Nous sommes en compagnie de Claude Angéli, du Canard Enchaîné. Alors, commençons cette seconde partie, Claude, mercredi, dans ce contexte tendu. Le président François Hollande présente ses vœux aux armées, et pas n'importe où, à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Reportage d'Olivier Four.
Des vœux sur le bateau amiral de la marine française. Le Charles de Gaulle part en mission en océan Indien. La situation au Proche-Orient le justifie, dit le président de la République.
L'appareillage de notre porte-avions est un acte qui a du sens. Nous pourrons, si nécessaire, mener des opérations en Irak avec encore plus d'intensité et plus d'efficacité.
Courant février, le Charles de Gaulle et son escorte devraient rejoindre le porte-avions américain Carl Vinson qui croise déjà dans la région du Golfe Arabo-Persique. Les 12 Rafales et 9 super-étendards à embarquer à bord du porte-avions français pourront ainsi épauler les aviateurs français en opération contre l'organisation de l'État islamique depuis le 19 septembre dernier à partir de la base d'Al-Dafra aux Émirats Arabes Unis. En ce début 2015, près de 9000 militaires français sont en opération extérieure et 10000 sont mobilisés sur le territoire national. Un effort inégalé, reconnaît le chef des armées, qui décide de revoir le rythme des suppressions de postes, 34000 prévus entre 2014 et 2019.
La situation exceptionnelle que nous connaissons doit conduire à revenir sur le rythme de réduction des effectifs qui avait été programmé. Ce rythme doit être revu et adapté.
Avec le déploiement du Charles de Gaulle et de son escorte, ce sont 2600 hommes supplémentaires qui partent en opération extérieure.
Une semaine d'actualité donc en compagnie de Claude Angéli du Canard Enchaîné. Alors là on est dans un domaine que vous connaissez bien, vous suivez ça chaque semaine. Claude Angéli pour le Canard Enchaîné, c'est les opérations, la participation française aux opérations dans le monde, Proche-Orient et Afrique. 9000 militaires sur le terrain aujourd'hui.
Oui, et là en Irak, on est le deuxième pays dans la coalition à bombarder. Derrière les Américains, qui sont bien entendu devant, mais devant les Britanniques. Et François Hollande se plaît à avoir cette position. On bombarde en Irak, on ne bombarde pas en Syrie. Et dans cette guerre, où la confusion est la plus totale, nous sommes alliés, objectifs, des Iraniens et du Hezbollah en Irak, contre l'État islamique, aux côtés des Américains, des Britanniques, oui, et de quelques pays du Golfe. Et en Syrie, alors là, l'Iran, le Hezbollah sont aux côtés de Bachar el-Assad. Alors comprenez-moi, là c'est difficile, quand même quelque chose de difficile à suivre, y compris dans l'opinion. Tout le monde n'apprécie pas les difficultés qui se posent pour expliquer cela dans des articles clairs. Et ça ne sert pas à contrebattre le développement de l'État islamique, parce que si la coalition a réussi jusqu'à présent en bombardant et en formant un petit peu les Peshmerga kurdes et l'armée irakienne, du moins ce qu'il en reste, on a contenu.
Oui, contenu.
Ils détiennent une bonne partie, disons la moitié de l'Irak. Et les militaires américains, les services américains reconnaissent que les bombardements n'ont pas permis de réduire la puissance de l'État islamique. Donc, on a simplement réussi à freiner. Bon, alors, qu'allons-nous faire dans cette galère ? Moi, je ne suis pas un spécialiste. Je me pose la question en tant que citoyen ou en tant que journaliste, et je remarque que toute une série de gens se posent ces questions-là. Maintenant, vous avez des gens du renseignement, comme Bernard Squarcini, l'ancien patron du service de renseignement intérieur, et d'autres qui disent, mais on a rompu nos relations avec les services de Bachar el-Assad, les services secrets, qui nous fournissaient avant des renseignements sur les islamistes.
La réelle politique aurait exigé qu'en fait, on gère les relations avec les services.
Je ne propose pas de faire ceci ou cela, c'est pas mon rôle. Mais où va-t-on?
Ouais. C'est une curieuse situation, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on réécoute ce reportage d'Olivier Four, d'un président de la République qui est en pleine restructuration des armées, des restrictions budgétaires. Une drôle de situation de le voir, ce président, sans doute s'engager davantage encore.
Mais il satisfait aussi ces généraux qui lui font remarquer qu'on ne peut pas intervenir partout, qu'actuellement on ne peut pas mettre beaucoup plus de monde en Afrique, qu'on ne peut pas bombarder de plus en plus, et que les armées manquent d'argent, et y compris de munitions parfois.
Alors vous le soulignez dans vos chroniques chaque semaine, Claude Angéli, est-ce que l'Europe, qui est maintenant concernée, le titre du Monde hier soir c'était « L'Europe face à la menace djihadiste », il y a eu des opérations en Belgique, deux présumés terroristes tués à Verviers, une opération à Bruxelles, il y avait des attaques imminentes et d'envergure, disent les autorités belges, contre la police, est-ce que l'Europe va davantage se mobiliser aux côtés de la France?
Pierre-Edouard Deldic, le jour où vous m'annoncerez que les Européens envoient des troupes en Afrique pour aider les Français au Mali, dans le Sahel, ou éventuellement au Tchad, ou dans le sud libyen, où tout le monde dit maintenant que c'est un sanctuaire terroriste, mais enfin, ça fait 2 ans que c'est écrit, et pas seulement dans le Canard Enchaîné, mais dans plusieurs journaux.
Oui.
Et que maintenant, on parle d'une intervention internationale en Libye. D'abord, est-ce que ça peut régler les choses? Le désordre est tel, le chaos est tel. Et ensuite, les Européens n'ont pas bougé, n'ont pas investi, n'ont pas, même sur le plan... Alors, sur le plan logistique, ils ont donné toujours un peu d'aide.
Il y a quelques avions,
voilà.
Quelques aides,
oui, des hôpitaux, des choses comme ça. Mais en fait, on considère que les Français, l'ancienne puissance coloniale, c'est la maître du jeu, elle se débrouille. Voilà.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Retour des dédicaces samedi prochain. Continuez à nous écrire, bien sûr. Suite d'une semaine d'actualité après les attentats de Paris et les marches d'hommage dans la France entière dimanche dernier. La force de RFI est de pouvoir placer dans une perspective mondiale ces attentats et ces répercussions. Et alors partons tout de suite pour l'Afrique, à Cotonou, Claude Angéli. Écoutez, ça va vous intéresser, ce qu'a dit lundi soir dans son journal de l'Office de Radiodiffusion Télévision du Bénin, le journaliste Ozias Sounouvou. Il a interpellé le président Boni Yayi, présent à Paris dimanche dernier. Ses propos ne sont pas passés inaperçus dans le pays. Tendez l'oreille, c'est un son capté à la télévision.
Comme on aurait aussi aimé que pour aller jusqu'au bout de cet engagement, le chef de l'État devienne Charlie ORTB. Charlie ORTB pour la liberté de presse sur le service public de l'audiovisuel au Bénin. Liberté de presse qui rime avec ouverture des antennes de la télévision nationale. Vrai débat contradictoire sur les grandes questions politiques et autres qui engagent le présent et l'avenir de la nation. Monsieur le Président de la République, sauvez la liberté des journalistes à l'ORTB, précieux héritage de la conférence nationale, entre autres, et entrée dans l'histoire. Pardon pour cette impertinence, n'est-ce pas là aussi l'esprit Charlie? Clause de conscience et devoir républicain oblige. Monsieur le Président de la République, vous êtes notre recours, rendu obligé ce soir après 3 pétitions infructueuses des journalistes de l'ORTB pour le retour de la liberté de presse sur le service public. Nous voulons juste faire notre métier et prendre notre part à la construction de la République. Vive le service public de l'information sur la chaîne publique. Vive la République.
Vous étiez admiratif, Claude, on va en reparler dans un instant, mais faisons d'abord une escale au Sénégal, maintenant, où Charlie Hebdo, en revanche, n'est pas le bienvenu. Correspondance jeudi de Karine Franck.
Est-ce un virage à 180 degrés? Est-ce simplement une façon d'être plus en phase avec l'opinion publique sénégalaise qui, dans l'ensemble, tout en condamnant la tuerie, se déclare choquée par la caricature du prophète? Ce qui est sûr, c'est que la présence du président Macky Sall à Paris dimanche aux côtés de tous ceux qui scandaient « Je suis Charlie » a été critiquée cette semaine dans la presse et sur les réseaux sociaux par des hommes politiques et par des chefs religieux. Certains y ont vu une caution au blasphème, d'autres un nouvel acte d'allégeance à la France. France. La dernière une de Charlie a été perçue au Sénégal comme la provocation de trop, d'où cette décision du gouvernement sénégalais. Selon une source ministérielle, si Macky Sall est parti à Paris, c'est au nom de la sacralité de la vie humaine. S'il interdit aujourd'hui Charlie Hebdo, c'est au nom du respect de la foi religieuse. Cela dit, selon l'Agence nationale de presse et selon un libraire, Charlie Hebdo n'était pas distribué au Sénégal depuis près de 2 ans. Un seul journal sénégalais avait reproduit la une de Charlie Hebdo. Le journal français Libération de mercredi est également interdit.
Alors Claude Angéli, nous sommes dans le contraste, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on écoute ces deux éléments sonores. Vous étiez admiratif en écoutant notre confrère Ozias Sounouvou de l'ORTB.
Eh bien, bravo. Et ensuite, si une répression contre lui s'opère, qu'il informe non seulement les journalistes français, mais tous les journalistes africains, parce que ça serait intolérable.
Le message est sans doute reçu de sa part, mais en revanche, au Sénégal, prudence.
Non, au Sénégal, c'est pareil, vous comprenez. Toute discussion sur on ne peut pas représenter le prophète, mais dans le numéro de Charlie Hebdo, c'est ambigu cette couverture. On peut l'interpréter comme le prophète qui pardonne ou on pardonne.
Il y a le prophète qui avec une larme à l'œil.
Oui, il a une larme à l'œil. On le pardonne d'avoir.
Je suis Charlie Hebdo. D'avoir des
disciples qui sont des terroristes, quoi. Bon, donc c'est pas le problème. Mais si on ouvre Charlie Hebdo, je veux dire sur la religion catholique et tout, il y a des choses absolument abominables, d'une violence. Bon, tout est dans tout, mais je crois que là. Les Américains, les Britanniques et tout, veulent pas reproduire ça et tout. C'est leur problème. Je crois à la plus grande liberté. Bien entendu, faut pas franchir, comme a fait Philippe Tesson, qui met en cause les
musulmans. Alors, il faut rappeler, un journaliste, Philippe Tesson.
Journaliste français.
Ancien patron d'un grand journal qui s'appelait Le Quotidien de Paris.
Ancien patron d'un quotidien qui s'appelait Le Quotidien de Paris. Critique de théâtre au Figaro et Figaro Magazine. Et qui s'est permis de dire, je dis, que les musulmans, en gros, je résume, foutent la merde en France. Voilà. C'est-à-dire, généralisant, il n'y a pas quelques terroristes, il n'y a pas des réseaux terroristes, il y a les musulmans et les arabes. Bon.
On est en plein amalgame.
C'est-à-dire, tout le monde est responsable du moment qu'il est arabe. Donc, dans la rue, méfiez-vous si vous voyez un barbu, et surtout s'il est arabe. Non, c'est du délire, et là, il faut balance égale. C'est-à-dire, Monsieur Dieudonné fait ceci, c'est contraire à la loi, on le poursuit. Monsieur Philippe Tesson dit ce que je viens de dire, eh bien, je n'appelle pas à la répression, mais je dois dire que on doit le traiter de la même façon.
Alors, il faut rappeler, Claude Angéli, ce que dit l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, je cite, « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Et la loi existe en France.
Oui, c'est le racisme, c'est l'appel à la discrimination et c'est cette stupidité de vouloir parler d'une population, c'est quand même quelques millions de personnes. Donc, où va-t-on ?
Une semaine d'actualité.
Et nous allons continuer notre voyage dans cette édition spéciale, Claude Angéli, et nous devons parler de terrorisme, toujours, du terrorisme préoccupant pour les chefs d'État d'une partie du continent africain, évidemment, Laurent Corot.
C'est le Nigeria qui est la première zone préoccupante pour les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les forces armées ne parviennent pas à endiguer la progression de la secte islamiste Boko Haram dans le Nord-Est et l'avancée des extrémistes crée un risque croissant de contamination des pays voisins. Le Nord Cameroun fait ainsi l'objet de raids réguliers et les djihadistes tentent d'y recruter des combattants. Au Niger, le maire de la ville frontalière de Diffa a récemment vu flotter le drapeau noir des djihadistes de l'autre côté de la frontière et d'y craindre d'éventuelles attaques. Le Tchad voit lui aussi les islamistes s'approcher de ses frontières. Des centaines d'insurgés lourdement armés ont réussi ces dernières semaines à s'emparer de la ville de Baga dans l'extrême nord-est nigérian. 16 villes et villages des rives du lac Tchad ont été rasés au cours de ces raids. Mais les chefs d'État africains sont également préoccupés par la situation au sud libyen, qui est devenu un sanctuaire djihadiste. Les présidents tchadiens, maliens et sénégalais ont estimé que les Occidentaux devaient achever le travail commencé lors de leur intervention en Libye en 2011 et qu'ils devaient intervenir dans la zone pour neutraliser les extrémistes. Un point de vue partagé par les Nigériens.
Face à Boko Haram qui menace le Cameroun, l'armée du pays se sent un peu seule. Olivier Roger, mardi.
On se sent très seul au front. L'aveu est du porte-parole de l'armée camerounaise qui cache de moins en moins le dépit que ressentent les soldats envoyés au nord du Cameroun seuls parce que le Nigeria ne fait pas le travail. Pour les Camerounais, il est de plus en plus flagrant que l'armée nigériane a renoncé à pourchasser Boko Haram dans certains secteurs, laissant notamment les djihadistes libres d'agir le long de la frontière camerounaise. Pourtant, les stratèges militaires de Yaoundé plaident pour une action en profondeur contre Boko Haram, c'est-à-dire une action contre les bases arrières et notamment la forêt de Sambisa, véritable place forte de la secte dans l'état de Borno. Du côté des politiques camerounais, là aussi, on regrette que la communauté internationale ne soit pas plus active. La semaine dernière, le président Paul Biya a plaidé pour la mise en place rapide d'une force internationale. Le SDF, le grand parti d'opposition, prône la même chose, mais il relève que le Cameroun paye aujourd'hui l'inaction du président Biya sur la scène internationale depuis des années.
Le Tchad est donc lui aussi menacé par Boko Haram et tente de se mobiliser contre les islamistes. Correspondance de N'Djamena signée Madjas Anako jeudi.
Selon des sources humanitaires, ce sont désormais plus de 12 000 Nigériens qui ont fui le nord nigérien en direction du Tchad. Leur profil, ils proviennent de toutes les composantes de la société nigériane, ce qui rend élevé le risque d'infiltration des éléments de la secte islamiste Boko Haram. C'est pourquoi les services de sécurité ont renforcé la surveillance, que ce soit au pont Ngeli, aux portes de N'Djamena, ou le long du Logon, le fleuve qui sert de frontière naturelle entre le Tchad et le Cameroun. Aux entrées sud et nord de N'Djamena, les barrières se sont multipliées selon de bonnes sources. Plusieurs éléments de Boko Haram ont entrepris de s'infiltrer au Tchad à partir du sud du pays. Ils ont commencé à utiliser des méthodes les plus sales, comme par exemple se servir des filles de 10 ans pour faire exploser des bombes. Nous devons redoubler de vigilance, précise une source policière qui annonce que le 20 janvier prochain, le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Bénin se retrouveront pour peut-être s'entendre enfin sur une réponse commune à la menace Boko Haram.
Et le président du Cameroun, Paul Biya, a annoncé jeudi soir que le Tchad allait envoyer des troupes dans son pays pour l'aider à combattre les islamistes de Boko Haram. D'ailleurs, une colonne de blindés a fait route hier vers le Cameroun. À noter aussi, Claude, dans l'actualité africaine, des manifestations de l'opposition en République démocratique du Congo réprimées violemment par la police. Manifestations contre l'examen d'une loi qui prévoit un recensement avant l'élection présidentielle. Un recensement qui, selon l'opposition, risque de reporter l'élection qui doit avoir lieu l'année prochaine en principe. D'ailleurs, le gouvernement a déjà annoncé hier le report possible de l'élection à 2017. J'ajoute aussi dans cette actualité très lourde la découverte en Algérie du corps du Français Hervé Gourdel qui avait été enlevé il y a plus de 3 mois et exécuté par les soldats du califat, un mouvement qui indiquait avoir fait allégeance à l'organisation dite de l'État islamique. Une bien lourde actualité, Claude Angeli.
Oui, je fais un parallèle. En Irak, les États-Unis ont dépensé énormément d'argent pour former une armée. Et former ses cadres, son état-major et tout. Plus de 300 000 hommes. Mm-hmm. Cette armée a en grande partie déserté, foutu le camp, carrément, quand l'État islamique est entré et a pris Mossoul et tout ça. Bon. De même, au Nigeria, une armée, le Nigeria, 180 millions d'habitants. C'est quand même...
Un pays puissance. Riche, qui a
une armée puissante, que l'on dit très corrompue, et y compris qui a laissé la secte Boko Haram, les djihadistes de Boko Haram, qui ont fait d'ailleurs allégeance à l'État islamique d'Irak, prendre, capturer, piller ses arsenaux. On a vu des photos des gens de Boko Haram avec des chars. Ça s'invente pas quand même. Alors là, bien entendu, ils font des incursions au bord du lac Tchad, et donc les Tchadiens sont inquiets, et pas seulement les Tchadiens, au Cameroun, et le Cameroun demande une intervention internationale.
Il faut rappeler que les pays frontaliers du Nigeria sont le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin aussi.
Et donc, ils contrôlent une bonne partie du Nigeria, et le Cameroun demande une intervention internationale. Mais la communauté internationale, qui n'existe pas, comme dit Hubert Védrine...
Le mythe de la communauté internationale.
Mais qu'est-ce qu'elle va envoyer ? Les Français n'ont pas les effectifs nécessaires. Les Américains font du renseignement ou font du bombardement. Des Français peuvent aussi bombarder. Mais on va en finir comment ? Est-ce que Boko Haram est une découverte ? Mais non, ça fait des années qu'on a vu ce groupe se développer. Cela fait des mois qu'on s'aperçoit qu'il devient extrêmement dangereux et expansif. Et maintenant, le Cameroun, où le président Biya, qui est là au pouvoir depuis bientôt 40 ans, je ne sais pas de quoi il s'occupe, mais alors, tout d'un coup, l'ONU, au secours. Bon, ben, je suis désolé, mais ni l'ONU, ni une force internationale ne peut régler le compte des terroristes dans le sud libyen, ne peut empêcher le développement du terrorisme dans la bande sahélienne et ne peut empêcher Boko Haram de prospérer.
Oui. Alors ce qui frappe, Claude Angélie, ça c'est un sujet que vous suivez aussi avec attention, la question du renseignement, c'est qu'on a l'impression que le monde est écouté, que tout le monde écoute tout le monde, mais quand il s'agit des vraies menaces, on a l'impression que le renseignement est incapable ou a des failles. Vous l'expliquez d'ailleurs très bien en ce qui concerne les terroristes français qui ont frappé à Paris la semaine dernière. Mais il y a des failles, faute de moyens souvent.
Didier Assou a fait un article cette semaine qui est justement très bien informé là, et effectivement, il y a un défaut d'analyse.
Des assassins sous surveillance à Eclipse, c'est le titre de son papier.
Oui. Mais on a beaucoup de renseignements. Les Américains ont énormément de renseignements. Ils ont un fichier d'un million de personnes qui sont dangereuses si elles prennent l'avion. Mais en fait, non, on ne peut pas. Il faut trier, il faut analyser. Alain Boer, qui n'est pas, disons, quelqu'un de ma paroisse, faisait remarquer, alors que je m'attendais sans doute que lui demande plus de un patriote acte à la française, il dit non, non, pas du tout. Il faut plus d'analyse. On a des renseignements, on a des bons renseignements. Au moment de l'affaire Mera, on avait des renseignements, on ne les a pas bien utilisés. Là, on avait quand même des soupçons sur ces gens, on ne les a pas bien utilisés. Ça arrive, je veux dire. Il y a toujours des bavures, enfin, pas des bavures, des erreurs. Les Américains aussi ont fait des erreurs, les Britanniques, probablement les Russes aussi et tout. Mais il faut donc bien travailler, infiltrer des mouvements. Mais ça, c'est très difficile. Si à vous, à moi, on vous avait demandé d'infiltrer un groupe djihadiste et de, pendant un an ou deux ans, d'informer le service secret de...
Nous n'avons pas tout à fait le profil.
Pas tout à fait le profil. Mais, je veux dire, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, c'est un travail de longue haleine.
Et se repose, Claude, la question du renseignement humain, une question qui avait ressurgi le 11 septembre, après le 11 septembre 2001, l'importance du renseignement humain, et pas simplement des écoutes téléphoniques ou
et c'est le père Bush qui a critiqué la CIA qu'il avait dirigée, en disant qu'on privilégiait le renseignement technique, c'est-à-dire satellite, écoute téléphonique, tous les moyens pervers pour obtenir de l'information, alors que c'est le renseignement humain qui est le meilleur associé au renseignement technique. Mais renseignement humain, c'est là, les hommes, ou quand on retourne des gens, qu'on les utilise malgré leur mauvaises intentions, là, on peut être bon. Là, on peut voir qui va faire une opération. Et parfois, ça peut servir. Il y a eu quand même des cas en France où on a fait des bons coups, ils ont évité... Peut-être pas cinq. Ils disent cinq. Moi, j'ai pas vérifié, j'ai pas les moyens. Mais il y a eu quelques affaires. Et rappelez-vous, mais Kadhafi nous avait donné un bon renseignement permettant d'éviter un attentat. Et Bachar el-Assad aussi. C'est Guéant qui allait.
On va quand même pas finir par les regretter, Claude Angélie.
Non, on va pas les regretter. Mais Guéant allait à Damas chercher des renseignements sous le règne de Sarkozy pour nos services.
Ouais.
Il faut traiter avec n'importe qui,
avec le
point de vue renseignement. Hein, point de vue renseignement. Je parle pas. Point de vue. On n'était pas obligé d'inviter Bachar el-Assad au défilé du 14 juillet, pardon. Ouais. Mais au point de vue renseignement, là, les barbouzes entre elles, c'est pas mal.
Les barbouzes, un des mots favoris du Canard Enchaîné, d'ailleurs. Comme quoi, il ne suffit pas de poser des micros dans un journal, en l'occurrence au Canard Enchaîné. C'est, vous voyez de quoi je veux parler, très bien, pour reprendre l'affaire que vous avez connue et un livre que vous venez d'écrire avec Stéphanie Meunier.
Pour reprendre la période où nous étions traités de terroristes journalistiques.
Ouais. Alors il faut rappeler, parce que ça, elle est formidable, cette devise, la devise du Canard Enchaîné, Claude Angéli. La liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas.
Voilà.
À méditer dans toutes les écoles.
C'était le détournement de la publicité de la pile Vendaire.
Ouais. La liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas. À méditer donc tous les jours, notamment chez les obscurantistes. Merci Claude Angéli d'être venu nous voir. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Il faut lire Charlie Hebdo, mais il faut aussi lire Le Canard Enchaîné chaque mercredi. Et on y découvre des choses souvent très à l'avance, Claude.
Et écoutez Radio France Internationale.
Je vous remercie. Ce n'était pas préparé, hein, vous l'avez dit spontanément. Merci Claude. Une semaine d'actualité, réalisation Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée, sauf pour nos auditeurs africains qui auront du football avec la CAN. Pour les autres, je vous propose, et ce n'est évidemment pas un hasard, une rediffusion d'une émission sur celui que l'on a appelé le prince de la Renaissance, Erasme et ses adages. Nous allons parler de l'humanisme, des humanistes face à l'obscurantisme et au fanatisme. Nous ferons la même chose dans deux semaines avec Montaigne. Demain donc, sauf pour l'Afrique, 17h10, heure de Paris, et pour vous qui habitez sur le continent africain, la possibilité évidemment d'écouter l'émission sur le site de la radio, www.rfi.fr. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal, sur RFI bien sûr.